Chapitre 13. Réapparition. 5 jours se sont écoulés. Durant cet intervalle, nous vîmes constamment notre nouveau voisin. C'était tantôt lui qui venait nous rendre visite, tantôt nous qui allions au sable. M. Finch attendait, en feignant une ignorance complète et avec un tact consommé, que les relations entre les deux jeunes gens prissent, au vu et au su de tout le monde, une signification évidente. Grâce à Lucille, elle prenait rapidement un caractère de plus en plus tendre. « Va, pauvre cher aveugle, ce n'est pas moi, femme libre et démocratique, qui te blâmerai d'avoir fait les premiers pas vers l'homme que tu aimais et qui était bien le soupirant le plus timide que j'aie jamais vu. » Plus la passion de Lucille augmentait et plus il semblait douter de lui-même. J'avoue que je n'aime pas la timidité chez un homme et qu'à mesure que je le connaissais mieux, Dubourg ne faisait guère de progrès dans mon estime. Mais il suffisait qu'il fût compris de Lucille, qui voulait se le représenter, en imagination bien entendu, tel qu'il était réellement. Tous les habitants du presbytère, et jusqu'aux enfants, eurent à subir sur son extérieur le même interrogatoire que j'avais déjà subi. Elle se faisait décrire dans leurs moindres détails ses traits, son teint, sa taille, et jusqu'aux vêtements et aux bijoux qu'il portait. Elle sembla singulièrement soulagée et elle éprouva un grand plaisir en apprenant qu'il avait le teint très blanc. Il n'y avait décidément rien à lui dire sur son horreur instinctive pour les nuances foncées dans les choses et dans les personnes. C'est un sentiment qu'elle s'avouait impuissante à expliquer, tout en reconnaissant qu'il existait. « J'ai, pour découvrir certaines choses, un instinct des plus singuliers, me dit-elle un jour. Ainsi, j'ai senti par intuition, pour ainsi dire, qu'Oscar était blond et avait le teint blanc pendant cette soirée délicieuse où j'entendis pour la première fois le son de sa voix. Cette voix alla droit de mon oreille à mon cœur et me le fit voir tel que vous me le décrivez. Trouvez-vous, comme Madame Finch, qu'il a le teint encore plus blanc que le mien ? Oh, je serais si contente ! Vous n'avez jamais connu quelqu'un qui me ressembla ? Si vous saviez les idées singulières qui passent dans ma pauvre tête ! Ainsi, je rattache à la beauté et à la vie toutes les couleurs claires et tout ce qui est sombre au crime et à la mort. Je crois que si j'épousais un homme brun et que je vinsse à recouvrer la vue, je me sauverais. » Je trouvais peu flatteuse cette antipathie pour les bruns. Vous serez de mon avis quand je vous aurai avoué que le docteur Pratolungo était du plus beau brun. C'était une critique indirecte de mon goût. Pendant ces 5 jours, il ne se passa rien de remarquable à Dymchurch. Nous n'eûmes pas de répétition de la visite des deux coquins, et Oscar ne changea en rien sa manière de vivre. Il renvoyait souvent la petite Jiggs, et l'enfant ne manquait jamais de lui rappeler, avec le plus grand sérieux, la promesse qu'il lui avait faite, un peu à la légère, de faire fouetter par la police les deux vilains hommes qui s'étaient moqués d'elle. Bien plus, elle exigeait que la correction fût infligée en sa présence. 6 jours après, Oscar reçut de Londres ses plaques. Le lendemain, il m'écrivait un billet ainsi conçu. « Chère Madame Pratolungo, je regrette bien d'avoir à vous apprendre qu'il ne m'est rien arrivé de fâcheux la nuit dernière. Mes verrous et mes serrures sont intacts et mes plaques sont en sûreté dans mon atelier. » La meilleure preuve qu'on ne m'a pas coupé encore la gorge, c'est que je suis en train de déjeuner très tranquillement. Tout à vous, Oscar. Il n'y avait plus rien à faire qu'à laisser, en personne sensée, la crainte inspirée par ces deux rôdeurs suspects à la petite Jiggs, qui n'était qu'un enfant. C'était un samedi, 10 jours après l'entrevue mémorable où j'avais forcé Oscar à me faire ses confidences. Oscar vint dans la matinée nous rendre visite et nous allâmes à notre tour au sable le voir commencer un coffret à gants en or qu'il destinait à la toilette de Lucille. Nous le laissâmes à son travail qu'il avait l'intention de continuer jusqu'à la tombée de la nuit. Vers le soir, Lucille se mit au piano et j'allai, de mon côté, à un rendez-vous que j'avais donné à Madame Finch dans la partie moderne du presbytère. Il s'agissait ni plus ni moins qu'une réforme complète dans la garde-robe de l'épouse du recteur, qui, voulant profiter de mon bon goût, m'avait prié avec instance de venir lui donner en petit comité mes conseils et mes appréciations. Je n'ai pas le moyen de m'acheter de nouvelles robes, me dit la pauvre dame. Mais si une personne habile s'en chargeait, on pourrait faire beaucoup en coupant et en retaillant mes anciennes toilettes. Comment résister à un appel aussi touchant? Me résignant bravement à supporter le baby, le roman et les enfants, je profitais de ce que M. Finch était occupé dans son cabinet à écrire son sermon pour me diriger, papier à patron et ciseaux en main, vers le parloir de Mme Finch. J'avais la tête pleine d'inventions ingénieuses et nous ne faisions que nous mettre à l'œuvre lorsqu'un des plus grands enfants arriva, porteur d'un message venant de la chambre des enfants. C'était l'heure du thé et naturellement, on ne retrouvait Jiggs nulle part. On l'avait cherché en vain au rez-de-chaussée, dans les cuisines, dans le jardin. Pas de trace de l'enfant là plus qu'ailleurs. Personne ne s'en inquiéta sérieusement et nous nous contentâmes de dire « Bon, elle sera encore allée au sable. » Et sans plus y penser, nous nous remîmes à travailler au costume fané de Mme Finch. Je venais de décider que la jaquette en mérinos bleu avait, par ses nombreux services, acquis des droits à la retraite quand un cri d'enfant, venu de la porte du jardin, arriva à mon oreille. Je m'arrêtai pour regarder Mme Finch. Le cri se répéta, plus accentué et plus proche cette fois. C'était bien celui d'un enfant, il n'y avait pas à s'y tromper. Le petit garçon, qui était venu de la chambre des enfants pour nous prévenir, avait laissé la porte ouverte en partant. Je la poussai et me trouvai face à face avec Jiggs. Tous mes nerfs tressaillirent à l'aspect de l'enfant. La pauvre petite, toute pâle de frayeur, ne pouvait articuler un mot. Quand je m'agenouillai près d'elle pour essayer de la calmer par mes caresses, elle prit ma main et voulut me relever. Elle poussa, quand je fus debout, un nouveau gémissement sourd et me tira par la main comme si elle eût voulu me faire sortir de la maison. Mais elle était si faible que l'effort la fit trébucher. En la prenant dans mes bras pour l'embrasser, je sentis derrière le cou de l'enfant quelque chose d'humide. Je regardai ma main. Grand Dieu, c'était du sang. Je retournai Jiggs et l'examinai. Mon cœur se glaça. La mère de la petite fille poussait derrière moi des cris de terreur. La blouse blanche de la pauvre petite créature était toute maculée de sang encore liquide qui ne pouvait venir d'elle puisqu'elle n'avait pas la moindre égratignure. En regardant de plus près ces horribles stigmates, je vis qu'on les avait tracés du bout des doigts sur la blouse de Jiggs. Je les examinai de plus près et au grand jour. On avait tracé quelques lettres à grand-peine sur la toile blanche. Je déchiffrai d'abord un A et un U, puis un S, suivi d'une lettre illisible, puis d'une autre qu'on aurait pu prendre soit pour un C, soit pour un T, puis un O, un U. Enfin, j'arrivai aux deux dernières lettres dans lesquelles je devinais, plutôt que je ne lus, les lettres RS. C'était le mot « secours ». Au secours. On avait tracé, d'un doigt trempé dans le sang, ces mots sur le dos de la blouse de Jiggs.